Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Corporate Chat Podcast. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter un tout nouveau concept. Pour illustrer la riche culture bilingue des affaires à Montréal, nous avons décidé d'innover en vous proposant une émission à moitié en anglais et à moitié en français. Nous tenons à remercier chaleureusement notre invité, M. Simon Bibeau, d'avoir accepté de se prêter au jeu et de participer à cette expérience unique. Nous voulons prendre le temps aussi de préciser qu'entre l'enregistrement de ce podcast et sa diffusion, M. Bibeau a été promis au poste de directeur en Private Equity International à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc nous tenons à lui adresser nos sincères félicitations. We would also like to shortly thank our sponsor, Red Bull, for sponsoring once again this podcast. Sur ce, bonne écoute!
Salut Simon, comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va super bien, merci. On est super content que tu nous accueilles ici à CDPQ. On est super content de te rencontrer aussi. Ça fait plusieurs temps qu'on prévoit toute l'interview, puis on est super content d'être là.
Ça fait vraiment plaisir, honnêtement.
Super. Ben écoute, on va commencer directement l'interview. Parlons un peu de ton parcours. Tu as obtenu ton diplôme à McGill en 2015, si je me trompe pas. Peux-tu nous parler un peu de pourquoi tu as choisi la finance, puis qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là?
Donc, mon parcours en finance, je dois vous avouer que je proviens pas d'un milieu financier. Dans ma famille, premièrement, mes parents faisaient quelque chose qui était pas du tout relié à la finance. Mon père, gestionnaire à Bell Canada, ma mère, infirmière à Hydro-Québec. Donc, c'était pas dans mon milieu cercle familial que j'ai eu la piqûre. J'avais un oncle qui œuvrait comme gestionnaire de portefeuille à Desjardins. Donc, un peu de connaissances par lui. Mais je dois vous avouer que la finance, je l'ai vraiment apprivoisée à l'université. Initialement, je suis quelqu'un qui avait quand même une facilité avec les chiffres. Donc, la finance, je trouvais ça assez intriguant. À l'université McGill, en fait, ce qui m'a vraiment attiré, c'était l'opportunité de me joindre au fonds de placement étudiant des hôtels gestion des capitaux. Mm-hmm. Donc, c'était dans le fond une opportunité de faire partie d'un portefeuille qui investissait directement dans le marché, en actions, en obligations. Et il y avait un curriculum qui était spécifique, un petit peu plus avancé en finance. Ce que j'ai beaucoup aimé, honnêtement, c'est que ça faisait le pont entre la théorie dans les classes et la pratique dans l'industrie pour le placement. Puis honnêtement, ce que j'ai vraiment aimé de l'expérience du fonds étudiant, c'est que tu es avec d'autres pairs qui découvrent la passion. Il y a beaucoup de partage de connaissances, de savoir, même pour la course au stage, beaucoup d'entraide. Mmh. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, initialement, le monde de la finance peut être assez intimidant. Puis honnêtement, je me sentais de cette façon-là. Quand j'étais rentré en finance, il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de termes techniques, que ce soit finance, la comptabilité, mais la curiosité était là, puis de fil en aiguille, j'ai vraiment eu la piqûre à travers des stages, puis ça a été un début de carrière, je te dirais, de découverte initialement, puis avec l'expérience, j'ai pris de plus en plus goût.
OK, super. Ben, peux-tu nous parler justement de ton processus? Tu avais eu des stages, tout ça. Peux-tu nous en parler un peu plus? Comment tu les as eu? Tu parlais que tu avais parlé un peu aux gens dans le fond. Est-ce que c'est comme ça que tu as eu tes premiers stages? C'était quoi tes premières expériences au travail?
Ouais, les premiers stages. Fait que ma première expérience professionnelle, en fait, c'était comme caissier dans une succursale à la Banque de Montréal au centre-ville. Mm-hmm. Écoute, c'était pas vraiment un stage, c'était vraiment un emploi d'été. Mais mine de rien, quand la Banque de Montréal était venue sur le campus pour recruter, j'avais levé la main pour prêter main forte à l'équipe de recrutement et j'avais appris qu'il y avait des opportunités de stage à la BMO dans les marchés des capitaux. Et ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment découvrir. Donc, mon premier stage, je l'avais décroché en 2012 à Toronto, à la Banque de Montréal, sur le plancher Sales and Trading. Donc, ça avait été une découverte du monde rapide du trading. Mm-hmm. Ensuite, le deuxième stage, je l'avais fait à la Banque de Montréal, à Montréal, en fait. C'était un stage hybride, donc Sales and Trading et Investment Banking. Puis là, à ce moment-là, honnêtement, je m'étais rendu compte que le volet finance corporative, les projets de longue haleine, fusion-acquisition, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup plus. Et en fait, mon dernier stage, je l'ai décroché à New York, à Goldman Sachs. Mm-hmm. Et ça, c'était en 2014. Faut dire qu'à l'époque, c'était en termes d'immigration, il y avait beaucoup plus favorable quand président Obama était au pouvoir. Donc, j'avais réussi à décrocher un stage à GS, puis ensuite, c'est ce qui a mené un emploi à temps plein.
Puis justement, ça mène parfaitement à notre prochaine question. Tu as travaillé à Goldman Sachs en sortant de l'université. Peux-tu nous raconter un peu comment tu as réussi à avoir cette opportunité-là, puis ton expérience ressemble à quoi une fois rendu?
Ouais, écoute, l'expérience, honnêtement, la réalité, c'est que la course au stage, je pense que c'était le cas il y a 10 ans, je pense que ça l'est tout autant aujourd'hui. C'est très contingenté, c'est très compétitif. Je pense que l'approche, c'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, faut dire que j'avais appliqué pour plusieurs banques, que ce soit les banques canadiennes au Canada, à Montréal, à Toronto. J'avais également appliqué, évidemment, dans des banques américaines internationales à New York. J'étais vraiment interpellé par le marché ben, new-yorkais, évidemment, pour travailler à Wall Street. Je trouvais que ça allait être une expérience très, tu sais, au cœur d'un centre financier nord-américain très important. Ce que j'ai fait, premièrement, c'était d'utiliser le réseau d'anciens de McGill. Donc, les gradués de McGill qui travaillaient en banque, je trouvais que c'était une belle façon pour moi de les solliciter pour apprendre à connaître leur réalité sur le terrain. Et ça m'avait aidé à décrocher quelques entrevues dans les banques américaines. Je me rappelle que j'avais interviewé à tu sais, Crédit Suisse qui n'existe plus aujourd'hui. J'avais interviewé à JP Morgan et à Goldman Sachs à New York. Puis il faut dire que tu sais, j'ai pas eu d'offres partout. En fait, j'ai à Goldman Sachs, c'était la seule qui m'avait offert une offre. Les autres m'avaient tous décliné. Tu sais, comme quoi, des fois, il faut vraiment comme mettre des pions un peu partout. Fait que mon expérience à Goldman, je l'avais commencé comme stage. C'était un stage de 10 mois, de 10 semaines. C'était très intense, mais honnêtement, ça m'a donné le goût d'y retourner à temps plein, là.
OK. Puis, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence de te prendre versus quelqu'un qui n'a pas été pris dans une grosse entreprise comme Goldman?
Écoute, honnêtement, c'est tellement difficile de se différencier. Moi, ce que je pense qui a joué en ma faveur, c'est, bon, j'avais, tu sais, un bon dossier académique. Ça, je pense c'est important, ça va de soi. Ce que j'ai essayé de démontrer, puis je pense que qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à me distinguer, c'est que j'ai démontré que je pouvais atteindre un certain niveau d'excellence dans quelque chose qui n'est pas relié à l'école. Donc, dans mon cas, moi, j'étais une étudiante athlète à l'université. Avant de me joindre à l'université McGill, j'avais joué à un niveau junior canadien en basketball. Puis je pense que ça a démontré certains atouts d'éthique de travail d'équipe, de persévérance. Et donc, je pense que d'avoir d'autres, si on veut, flèches tu sais, à ta corde, ça a fait en sorte que j'avais un profil qui était un peu différent peut-être du bassin d'applicants, que si j'étais capable d'exceller dans quelque chose d'autre qui n'était pas relié à la finance, ben je pouvais avoir des atouts qui étaient transférables au monde de la finance. Puis je pense que c'est quelque chose que Goldman Sachs, puis en général, les banques d'investissement recherchent dans les candidats. Je pense que ça avait joué en ma faveur à ce moment-là.
OK, super. Puis écoute, on veut encore une dernière question sur Goldman, on veut en savoir plus. On a tous entendu des choses folles comme la règle des 15 minutes où quelqu'un doit répondre super rapidement à ses emails, ou même le rapport qui était sorti pendant la pandémie où les gens avaient des expériences terribles ou leur niveau de mental. On avait vu un sondage où je pense le niveau de leur santé mentale avait vraiment diminué beaucoup parce que c'était des heures intenses, puis bon, c'est des projets super demandants. Tu sais, comment toi, ça l'a influencé ta façon de travailler, puis comment était ton expérience là-bas chez Goldman?
Fait que l'expérience à Goldman, tu sais, en passant, la règle de 15 minutes, c'est pas quelque chose qui est formellement dit explicitement, tu sais, quand t'arrives jour 1, voici la règle de 15 minutes. Par contre, l'environnement de travail qui est, oui, très exigeant, puis en fait, c'est vraiment le reflet de l'industrie, là. Quand t'es en banque d'investissement, au niveau junior, c'est pas juste le cas à Goldman Sachs, je pense que c'est le cas dans la plupart des grandes banques, il y a un certain souci d'être disponible et d'être rapide quand il y a des demandes de travail. Donc, je pense que c'est plus une habitude qui s'ancre quand tu rentres dans le bateau puis tu vois que c'est ça qui est exigé des équipes et particulièrement au niveau des analystes. Je te dirais, la culture, par contre, c'est bon, c'est une culture d'excellence. Les gens veulent travailler, oui, fort, mais veulent travailler vraiment bien. C'est sûr qu'il y a des jours quand j'étais à Goldman Sachs que je me disais, écoutez, comme pincez-moi, comment j'ai fait pour aboutir ici? C'est tellement une chance inouïe. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Puis il y a d'autres jours, surtout quand je travaillais tard le soir ou 10 heures du matin, où je me disais, pourquoi déjà est-ce que je suis ici? C'est ce que je fais. Mais honnêtement, somme toute, c'est une expérience qui m'a profondément marqué. Je pense que ça a donné vraiment un élan pour ma carrière. J'en reste très reconnaissant. Je pense que j'ai aucun regret de l'avoir fait, mais en même temps, aucun regret d'avoir passé à d'autres choses. J'étais vraiment plus interpellé par le monde de l'investissement que du monde de conseil. Mais Goldman Sachs a quand même été une super belle expérience pour moi à ce moment-là.
Puis justement, tu as mentionné passe à autre chose. Après Goldman, tu as transitionné vers Northleaf en investissement privé. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton rôle là-bas, puis comment tu as trouvé ton séjour là-bas?
Ouais, fait que dans le fond, Northleaf Capital Partners, pour se situer, c'est une firme d'investissement canadienne avec le siège à Toronto. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais à Goldman, je travaillais sur un mandat où on représentait un consortium d'investisseurs. Il y avait, dans le fond, PSP, Investissement ici à Montréal, un autre fonds souverain et Northleaf Capital Partners. À l'époque, je les connaissais pas, mais Northleaf venait de lever un fonds d'1 milliard
OK.
en infrastructure pour un mandat pays développé OCDE. Et il était à la recherche d'un associate. Donc, moi, j'avais rejoint l'équipe de Northleaf pour l'opportunité à Toronto. En fait, c'était un ancien de McGill, un Québécois qui travaillait là-bas. Donc, je m'étais rentré dans le processus. Je trouvais qu'il y avait un excellent fit avec l'équipe là-bas. Il y avait un mandat vraiment intéressant. Et dans le fond, l'infrastructure s'inscrivait dans la continuité du groupe dans lequel j'étais à Goldman Sachs. C'était en ressources naturelles. J'avais fait des dossiers en infrastructure, donc j'avais une bonne expérience qui s'y prêtait. Je m'étais joint à Northleaf en 2017. Donc là-bas, honnêtement, le saut du, comme on dit, du sell side au buy side, il y a quand même une courbe d'apprentissage très à pic. Tu sais, quand tu es dans un rôle de banquier junior, le cœur de qu'est-ce qu'il faut que tu maîtrises, c'est vraiment les analyses financières, c'est la modélisation, c'est purement financier transactionnel. Quand tu vas du côté de l'investissement, il y a toutes les autres sphères de l'investissement qui est vraiment important à développer, puis à apprendre, notamment tout ce qui est légal, fiscal, opération. Il y a toute une vue d'investisseur puis de post-investissement qui s'installe. Donc, cours d'apprentissage très à pic. L'expérience à Northleaf, honnêtement, a été super. Ça m'a amené à travailler sur des dossiers super intéressants un peu partout dans le monde. J'avais travaillé sur un investissement dans un parc solaire en Espagne où j'ai dû aller à Madrid à 2, 3 reprises pendant une année pour clôturer le dossier. Sinon, d'autres investissements sur lesquels j'avais travaillé, c'était une autoroute payante aux États-Unis dans l'État de la Virginie. Et ensuite, une plateforme de centre de données aux États-Unis également où j'allais visiter dans le fond, des grosses bâtisses où il n'y avait que des serveurs. Donc, c'était vraiment intéressant d'apprendre toute forme d'actifs intéressants en infrastructure.
OK, super. Puis après, qu'est-ce qui a fait de faire le saut maintenant chez CDPQ?
Donc, le saut à la caisse, c'était, en fait, je te dirais pour 2 raisons. Premièrement, ben, il y a toujours une raison personnelle pour changer. J'étais avec ma copine à Toronto, qui elle faisait ses études à l'Université de Toronto. On s'était dit qu'on voulait revenir au Bercail à Montréal un jour. On savait pas quand, mais là, on se situe en 2019. Je pense qu'il y avait quelque chose en nous qui disait que c'était un bon moment pour revenir après quelques années à l'extérieur. Puis côté professionnel, je voulais me retrouver dans un rôle plus généraliste dans le monde des placements privés. La Caisse m'avait rejoint pour un poste dans leur équipe. Et encore une fois, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment une belle culture ici. Donc, je me suis joint en 2020. En fait, ma date de départ était le 23 mars. Donc, si on se rappelle, le 13 mars, le Québec avait fermé tous les bureaux. Donc, j'ai jamais connu la caisse pré-pandémie. Je l'ai connue en plein
Pandémie.
début de pandémie. Donc, en fait, ma première semaine, j'étais en fait techniquement un employé, mais j'étais jamais allé au bureau. J'avais même pas ma carte d'accès. J'avais pas mon portable. Donc, le 1er avril, j'ai dû venir au bureau, prendre mon équipement pour ensuite retourner chez moi, m'installer, faire une intégration à distance en pandémie. Bon, évidemment, tout le monde était dans le même bateau à ce moment-là. Heureusement, c'était ma troisième position. J'avais déjà fait un rôle d'investissement, donc j'avais quand même des repères en termes du métier, mais il faut dire que l'intégration avec l'équipe, ça le prend un peu plus de temps, évidemment, à cause de la distance. Mais là, ça fait 4 ans et je suis bien, bien installé là.
Puis, travaillant en investissement privé, tu as la chance d'observer des rencontres de conseil d'administration ou d'être observateur de conseil d'administration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'approche au niveau d'un conseil d'administration, puis en quoi ça consiste un rôle en tant qu'observateur de conseil d'administration?
Ouais, absolument. Donc nous, notre rôle dans l'équipe de placement privé dans laquelle je travaille, on vise faire des investissements minoritaires ou avoir un actionnariat, disons, entre 20 et 40 % d'une société. Et on va avoir des représentants de la caisse qui siègent au CA. Et ou qui agissent comme observateurs. Donc, l'opportunité que ça nous donne, c'est d'être présent, littéralement en présentiel là, depuis environ 2 ans, dans ces rencontres-là où il y a un agenda qui est formé par l'équipe de direction avec tous les sujets en termes de bon résultats financiers, décisions stratégiques. Donc, ça nous donne vraiment une opportunité d'être dans les discussions, d'influencer, de pouvoir évidemment exercer notre droit de vote en matière de gouvernance. Honnêtement, il y a vraiment des conversations super intéressantes qui ont lieu dans les conseils d'administration. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est travailler puis voir les PDG exprimer leur vision, exprimer leurs défis, voir vraiment cette vision stratégique-là. Tu travailles avec des gens dans les sociétés qui sont hyper compétents, hyper connaissants de leur secteur. Toi, comme investisseur, tu essaies d'ajouter une valeur ajoutée, tu essaies évidemment de te retrousser les manches quand il y a des opportunités intéressantes pour la compagnie, de soit pivoter puis avoir créé encore plus de valeur, ou quand il y a des situations plus difficiles, ben tu es là pour les appuyer, pour naviguer la situation. Donc, honnêtement, ça te donne vraiment une opportunité comme investisseur direct d'influencer le cours de la trajectoire. Puis c'est quelque chose qui est vraiment, honnêtement, un rôle super privilégié. Là.
Mm-hmm. Ouais, c'est clairement une grande source d'apprentissage. Fait qu'on va maintenant passer au segment en anglais. So, moving on to the market segment. How would you say investing, especially from your experience, how would you say investing from a huge public institution is different from investing from a private firm, for example, Northleaf?
Yeah, so I'd say there's several different factors between a large institutional pension fund like CDPQ and other private equity firms. First of all is size. So at a institution, you're going to have typically a lot more assets under management than the private equity firm that has a bespoke strategy. So size here, for instance, here at CDP, we manage about $340 billion of assets under management. Most of the general partners or private equity firms have a lot less. So there's a different notion there. Then the other difference is fundraising. So private equity firms have to fundraise. That's the first part of the cycle. It's fundraising, investing, harvesting. And we, by design, already have capital inflows coming from our pensioners. So we do not have that challenge. And fundraising is, having been at a private equity firm before, is extremely challenging. There's only a select few firms that can fundraise relatively easily. What that also means is that in terms of fund life, it's very different. So private equity firm will have a horizon in terms of the window to invest and then the window to hold their assets. Eventually, the investors in the fund want a return on capital. And there's a finite life to the fund. At a pension, we can be more flexible in terms of how long we decide to own our assets, how long it takes for us to monetize them. Eventually, we also seek to make a return on our investment, but we're not guided by a firm finite life. And then the last stark difference is that at a large institution, there's a duality of the role you have to play. So within our team, we make investments in private equity firms' funds as an investor and get exposure to their entire portfolio indirectly. But we also invest directly alongside private equity firms in certain companies that eventually become our portfolio companies. And I think that view offers us an incredible perspective because we see a lot of different private equity firms. We get to understand their strategies. And that also helps us formulate views and theses in terms of which investments we want to make on the direct side. And so it's an interesting hat to wear, being an investor in the funds, but also being an investor directly in the companies. And that's something that private equity firms themselves usually do not benefit from.
And also, CDPQ has a special mandate with investing and stimulating Quebec's economy. You're in the international private equity team. So how would you say that affects your investments, and how do you leverage that? How to use that? How does it impact your specific team?
Yeah, so it's quite interesting. You know, CDPQ is one of the few institutional investors that has a dual mandate, right? To invest in the Quebec economy and invest abroad internationally for diversification and generating attractive returns. The every investment we make, we also keep in mind, even on the international side, the Quebec angle. So how can we share knowledge? How can we perhaps help an international company expand and have a footprint in Quebec for to create jobs? There are certain examples of that. So we always keep that in mind. There's a lot of connectivity between the two teams in terms of sector knowledge. And it's something that we take a lot of pride in, and which makes us actually unique in the marketplace.
And also, how would you approach private investment in the current rates environment, especially private equity allocations where debt financing plays a crucial role?
Yeah, it's that's a very good question. It's actually a stark difference now than what we knew over the last decade in a low interest rate environment. And so first and foremost, what we did when we noticed the change in the interest rate policy was to understand the impact on our existing portfolio. So how will our portfolio companies adapt to a rising rate environment? And so there was a lot of analysis that went to understand the sensibility to movements in interest rates. So we did an in-depth dashboard to understand all of the leverage and credit statistics and understand what buffer we had. And so first and foremost, you want to just protect what you already own. And that's something that you have to keep in mind. The other thing is when you look at new investment opportunities, now banks are a bit more cautious in terms of how much leverage or how much debt they can lend because they're obviously sensitive to the ability for the issuers to repay. And so you've noticed at least one turn less of leverage. So whereas before, say a large cap company could raise 7 times EBITDA, now it's about 6. In the middle market, probably 5 was down to 4. And I think what at least my view is to be very cautious initially at entry. Perhaps start with a not optimal capital structure, have a bit less debt, and perhaps in a year or two, once you deleverage, you can refinance and maybe at a lower rate, given now that we're still in a rate that's going to be higher for longer. But there should be, I think, over the next 12 to 24 months, a bit of a decrease in the interest rate policy. And I think the other thing to keep in mind from a industry perspective is that over the last 10 years, a lot of the returns in private equity were generated by the expansion of your entry multiple and your exit multiple. And that was in part driven by the low cost of capital, interest rate environment, and the ability to put leverage. A McKinsey report recently said that for investments that happened in 2010 and were exited by 2021, 2/3 of returns were explained by entry leverage and entry to exit multiple expansion. And I think that's not going to be the case for the next 10 years. The way to generate returns is going to be through organic core EBITDA expansion. And how do you do that? Well, through growth and margin expansion. And so I think there's going to be a renewed focus on operational efficiency to generate returns and not benefit from that low interest rate environment that was the case over the last decade. So I think it's a new shift in how private equity investors have to think about their portfolio and new investment opportunities.
So you just mentioned how important the entry, the environment for the entry of your portfolio companies is, well, are. What would you say your team or yourself consider an attractive or challenging environment right now for private investment, considering the environment right now?
So it's interesting. Like we right now, I think there's a view to look at quality. Whereas before, in the 2020, 2021 recent frenzy in capital markets and the IPO and the SPACs, a lot of companies had high growth trajectories, even high growth prospects, but they were not profitable. And those types of companies, which either went public over the last 2 years, those have actually not performed that well. Nowadays, I think there's a return to flight to quality and to look at companies that today have an actual profitable growth and having already, positive unit economics on their business model. And that actually is what is happening is those quality assets, they will still trade at very healthy valuation multiples. And a lot of investors, because there's so much dry powder, there's so much capital available to invest from private equity firms, those actually are snatched up very fast, and there's a lot of private equity firms that preemptively position themselves to avoid a broad-based process where the company solicits dozens of investors, and some of them try to position themselves to buy those assets earlier before anyone else. And so you're looking at a market where for those high quality assets, people are willing to move fast, pay a premium because it's you're buying quality, and you're still going to earn a decent return.
And are there any specific regions or countries that your firm or CDPQ view as particularly attractive or challenging for private equity in the international segment?
Yeah, so our mandate is focused on the Americas, so principally North America, Europe. In Europe, I'd say it's mostly Western Europe. Mm-hmm. And in Asia, we're more now in developed Asia markets, so South Korea, Japan, Australia, New Zealand. I'd say in Asia, China is still a very challenging country to invest in. So we're focusing mainly on the markets in Asia where we feel more comfortable institutionally. But I'd say overall that where we see continued opportunity and momentum is in the United States. I mean, it's the largest market in terms of buyout returns for private equity. The U.S. has consistently delivered over the last decade. We have a team here in Montreal and in New York, which covers the Americas thoroughly. And the U.S., I mean, it's our friendly neighbors from the South. There's right now a robust economy. There's a lot of interesting sectors there that we can invest in technology and healthcare and services and climate and energy transition as well. So the United States, honestly, will always, I think, for us, remain the core of the markets that we invest in.
And we already mentioned earlier that CDPQ invests only in minority stake in companies. What factor drives your decision for, having that minority stake instead of a majority stake in companies?
Yeah, it's an interesting question. What drives minority stake investments is we like to do things with partners. So in a consortium fashion with one or two partners, we can jointly own the control of a company. There's more, minds at the table. You have complementary partners that bring something else. And we like to do it that way because we think it adds a lot more value. There's also a practical reason for it is that our private equity portfolio is about $65 billion. And we're only about 55 investment professionals in our offices in Montreal, New York, London, and Singapore. And so we need to have a model that's scalable. So it would not make sense for us to own outright majority control positions in all of our, 60 plus portfolio companies. We wouldn't have a sufficiently large team to do that. And so there's also a reason that we invest in minorities because we need to have a model that's very scalable. And minority is still very active, right? We'll have governance rights, we'll have an ability to influence at the board level. But it's just, there's also that pragmatic reason that we have such a large portfolio, we have to be diversified, and we like to have partners with whom we invest in directly in companies.
Mm. And could you give us maybe an example of a specific deal or transactions you worked in or you oversaw?
Yeah, absolutely. So in 2021, I worked on an investment in a company which offered professional services in investor relations and public relations. And so we acquired a meaningful stake on a secondary transaction, so acquiring the stake of existing shareholders. And that was in a sector that we found very interesting, in IR and PR, which are services that are becoming more and more important for companies, especially the ones that are publicly traded, how they message their equity story in the markets. And so that was a transaction that I worked on. It was in the middle of the pandemic. So it was an interesting timing where you did due diligence very thoroughly, however, remotely. Mm-hmm. And so we ultimately had the opportunity to meet the management team several times virtually. There was also, I think, late in the transaction, a moment where we met them in person. But it was certainly an interesting time in 2021 when the pandemic was still around. you had to make, you still had to deploy in that context in a new model. And that was an opportunity that I thought was quite interesting in that context.
And given that CDPQ only takes minority stakes, how do you make sure there's an alignment of your objectives with other GPs of the specific portfolio companies? How do you go about managing that?
So, I mean, ultimately, that alignment of interest happens as long as you have rights to, exit at a certain minimum return threshold. So we will typically negotiate at entry with a GP that we can exit our investment as long as there's a minimum internal rate of return that's met, and ultimately as long as there's alignment on the price paid at entry between you and your partner, and eventually our partner, as I mentioned earlier, they also have a finite life to their fund, and so we know that they're going to have to work to create an exit event to return the capital, and we can decide at that point if we want to tag along with their exit or we want to stay around longer. So that alignment of interest actually happens and is thoughtfully thought of at entry to make sure that we're all aligned to make this a success.
Mm-hmm. Great. So moving on to the mentorship and guidance segment, what qualities do you believe are essential for effective leadership, either in finance or just in corporate finance in general? And how can someone develop those qualities?
Yeah, well, I think there's two qualities that come to mind. The first one is humility, in my viewpoint. I think it's important to keep a growth mindset and be a continuous learner. And I think it's the classic saying, the more you learn, the more you know you don't know. And I think in finance, because it's such a fast evolving market, there's a lot of factors that come into it, geopolitics, economics, financials. I think it's important to be humble because eventually you will be wrong. You will make a mistake. And I think just making sure that you're humble and you can recognize those and just always consistently learn, that is, I think, an important quality to have. And secondly, I would put a lot of emphasis on teamwork. There's perception that the best financiers are the ones who work in their garage and do a bunch of research on their own and come up with great, pitch or stock ideas. It's really not the case. Honestly, you have to work as a team to work on any type of investment. I think you want a diversity of thought. You want to have partners and colleagues that have different views, different opinions. So I think working well as a team, it's always a challenge to work with others, but I think you actually, that is the best way to come to an ultimate outcome, either to when you're dealing with a hard situation in a company to turn the tides or to come up with great ideas. It's with the collective power of the team that you do it. So I think teamwork is another quality that I think good leaders foster with themselves and their teams.
Yeah, totally. And we decided to make the mentorship segment dynamic. So I'm going to ask my next question in French. Quel conseil donnerais-tu aux étudiants en finance qui nous écoutent puis souhaiteraient avoir un stage présentement, que ce soit des étudiants qui sont encore à l'université ou qui vont sortir puis qui n'ont pas réussi à se trouver un emploi?
Ouais, écoute, honnêtement, je pense que ça commence avec, ben, évidemment, s'y prendre tôt. Je pense que c'est vraiment important de se prendre tôt dans le sens d'également solliciter des gens qui travaillent dans l'industrie, parce que je pense que tu peux faire beaucoup de lectures sur c'est quoi le monde de la finance. Il y a tellement de sous-métiers en finance, c'est tellement vaste que les lectures, oui, ça peut te donner comme un bon point d'entrée, mais rencontrer des gens dans l'industrie qui vivent le métier, je pense que ça va t'aider à trouver tes intérêts, puis éventuellement à développer des relations. Puis je dirais aussi, c'est de le faire à travers l'année. Ne pas attendre quand il y a un poste affiché de décider « Ah, je vais réseauter à ce moment-là » parce que là, en général, les gens sont peut-être plus sollicités. Donc, j'encouragerais les étudiants à le faire à travers l'année. Je pense que le meilleur moment de se positionner pour un stage, c'est justement quand il n'y a pas de stage qui est offert. Je dirais également, ce qui est très important, moi, de par mon expérience personnelle, c'est de solliciter aussi des anciens de ta propre université. Je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance. Les gens sont typiquement plus enclins à redonner des conseils à des gens qui ont fait un parcours semblable. Je pense que ça soit des, t'sais, ton réseau d'anciens ou que ce soit d'autres Canadiens qui travaillent bon, à l'international, trouver un point de connectivité pour une conversation avec quelqu'un dans l'industrie, c'est super important. Je voudrais également mettre l'emphase sur la préparation. Je pense que c'est super important pour les entrevues particulièrement, bien comprendre la firme pour laquelle tu appliques, t'sais, vraiment arriver comme étudier pour un examen, comme pour une entrevue. Je pense que c'est super important. Puis trouver vraiment les bonnes raisons ou pourquoi. T'sais, pourquoi toi? Pourquoi cette firme-là? Pourquoi maintenant? Ça, je pense que c'est vraiment important. Puis le dernier point, c'est en fait de faire des entrevues, de se pratiquer autant que possible. Que ce soit des entrevues, ça peut être des entrevues fictives, mais j'encouragerais les gens qui veulent se trouver des stages de simplement appliquer à beaucoup d'endroits pour pratiquer l'habileté de répondre à des questions quand tu es à la table devant les intervieweurs. C'est quelque chose qui se pratique. Donc, le volume que tu peux avoir va vraiment également t'aider à avoir ta confiance, à vraiment t'sais, décrocher puis d'être capable d'être présent et performant là, durant ces moments-là.
Mais c'est comme que tu disais, c'est de te positionner en fait pour être déjà prêt à avoir le stage, parce que comme on voit sur les applications, des fois sur LinkedIn, tu peux voir sur un corporate role, des fois tu peux avoir 300 applications. Fait, mettons, qu'est-ce que tu dirais, toi, c'était quoi les outils que tu as utilisés, surtout pour des entry-level roles que tu avais eu précédemment? Quels outils tu as utilisés, tu sais, les questions multitude prep, qu'est-ce que tu avais utilisé, toi?
Ouais, écoute, la bonne nouvelle, c'est que pour les stages en finance corporative, tes banques d'investissement, placements privés, il y a quand même beaucoup de ressources qui sont disponibles en ligne. Il y a même des excellentes vidéos YouTube. Je pense qu'il y a plein de bons PDF qui circulent. Je pense que le réseau d'étudiants qui sont peut-être 1 an ou 2 ans plus vieux, qui ont déjà fait le parcours, sont vraiment des aides précieuses parce qu'ils viennent de le vivre. Je pense que, honnêtement, en termes de préparation, les outils sont vraiment là. Là, c'est vraiment de se poser la question, pourquoi tu le fais? T'sais, est-ce que ça t'intéresse sincèrement? Puis je pense que la bonne façon de le savoir, c'est en te préparant pour les entrevues, puis en regardant les questions techniques de comptabilité ou de finance, est-ce que tu y prends goût? Ou si tu le fais parce que tu penses que tu dois le faire, puis percer dans certaines sphères de la finance? Fait que je pense que c'est également de se poser les vraies questions, puis ultimement de se dire, ben si tu as vraiment des atomes crochus, ben parfait, tant mieux, parce que je pense que c'est vraiment important de le faire pour les bonnes raisons. C'est quand même un métier qui est très exigeant. Je pense qu'il faut que tu le fasses parce que tu es vraiment sincèrement intéressé de le faire. Donc, la préparation, quand tu t'y mets à fond, puis tu te rends compte que c'est quelque chose que tu fais parce que tu veux l'apprendre sincèrement, puis que tu as le bon côté, que tu te prépares pour une entrevue, là, je te dirais, c'est comme le bon signe que tu t'enlignes vers quelque chose qui va t'intéresser à long terme.
Yeah, that makes total sense, and maybe that's gonna overlap with my next question, but what advice would you give to someone starting in the finance industry?
So someone starting in the financial industry, I would say, and actually this comes to the prior comment I made, is to be curious and to let your intellectual curiosity loose. I think given how fast changing the world of finance is, you have to be this constant learner. And so if you have the interest and its intrinsic motivation, then I think making sure that anytime you do something, ask yourself questions and do these peripheral readings to better understand the concepts. I think that is something that you have to make a big investment up front, but it's something that actually continues along quite a bit. I think the second point is actually to develop resilience and grit. Because honestly, at some point, you're going to be wrong. You're going to be too slow. You're going to be not producing the work that's being expected. So eventually, there's going to be challenges, especially earlier in career and throughout your career. And I think developing that grit is super key because you're going to be able to own your mistakes, understand what you did wrong, and do better next time. And I think you're always going to have to roll with the punches, and I think grit, never giving up, and pursuing, your career in finance, regardless of what happens. Eventually, finance, you're taking risks, and the risks are sometimes going to pan out in a suboptimal outcome. And it's always about, I think bouncing back is super important. And I think lastly is seeking mentors. And those can be formal mentorship relationships. It can be informal. But ultimately, I think you as a professional, you can be influenced by a whole host of individuals you come across, colleagues, partners. And I think taking the best of what you see and interpreting it and making it your own, I think is something that I'd encourage everyone to do, because everyone is good at something. So why not take the best of everyone and make it your own? And I think that's it's a good recipe, I think, to develop and grow as a professional.
Perfect. Thank you. So moving on to our last segment, rapid fire questions. How would you describe your career in one word or in a short sentence?
My career in a short word, I would say it's not being afraid of change. I've been, you know, in my young career working for 10 years, so it's been, I feel like I'm just in chapter one, say, but I've already did three jobs in 10 years, and every time you switch, there's a learning curve and there is a new set of people you have to meet, and not being afraid to change is important. And then within an organization, you could also reinvent yourself and rediscover different things. So it's not about just consistently changing employers, but I think within your firm is to develop the mindset of what can you do to keep growing and changing. And I think that that has been something that's marked my career so far.
Puis sur une échelle de 1 à 10, à quel point dirais-tu que ton GPA est important en tant qu'étudiant?
Donc, je dirais qu'un GPA, c'est important. J'attribuerais, disons, un 8 sur 10, mais moins important que je pense beaucoup d'étudiants pensent que c'est. Je pense qu'un GPA, c'est important pour décrocher un stage parce que ça démontre une certaine rigueur, un engagement. Bon, t'es un étudiant, t'as des cours, t'es capable d'avoir une certaine discipline pour étudier, te préparer, apprendre une matière, peu importe la matière. Donc, je pense que ça, c'est un signe d'éthique de travail, d'engagement. Mais par contre, c'est pas tout. Parce que quand t'arrives dans le marché du travail ou dans les organisations, il y a le volet académique, oui, va t'aider en termes pour ta capacité intellectuelle, mais l'important, c'est beaucoup de travailler avec les autres. Donc, quand tu es à l'université, j'encourage les étudiants à faire des activités extracurriculaires, s'exposer à différentes expériences en dehors de la classe, parce que la classe n'est pas représentative de ce que tu vas faire dans ton métier. Donc, je pense qu'avoir d'autres expériences, que ça soit des comités, des études de cas, je pense que ça, en fait, c'est vraiment très complémentaire à ce que tu apprends dans les cours. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je pense qui doit être complémentaire à l'obtention du meilleur GPA. Parce que juste étudier, oui, ça va être, tu peux avoir des bonnes notes, mais c'est pas forcément signe que tu vas être un excellent professionnel par la suite.
Mm-hmm. And what part of your day do you look forward the most when you're working?
When I work, like the days that I find most exhilarating is when I know I'm going to be meeting and working with some of the best people in the industry. Like, so when I go to whether it be a board meeting or I go and meet a new management team, or we're going to be working with an interesting private equity firm and those partners, learning from and working with people that I find are excellent professionals and good role models. To me, I find those are the most interesting parts of the day. And honestly, ultimately, it boils down to people, right? So I, you know, for instance, our team here at CDPQ, we like to go for coffee runs at our in-house barista. And so just these little moments where you get the chat about life, about work, having fun with your colleagues, those are actually the highlights of your day, when you can just bond and have fun, work hard, but also have a good dynamic with the team. Those are the parts of the days which are fun, and then you have to go back to work and crunch on what you have to get going on.
Ouais, définitivement l'aspect interpersonnel c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis si ce n'était pas dans le secteur financier, qu'est-ce que tu ferais?
Qu'est-ce que je ferais? Honnêtement, je pense que je serais dans un rôle dans une entreprise. Honnêtement, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le monde des affaires. Je suis curieux de comprendre les entreprises, les business, comment elles fonctionnent, c'est quoi leur modèle d'affaires. Puis pour moi, en fait, la finance, c'est la discipline à travers laquelle je m'expose au monde des affaires. Puis évidemment, le concept d'investir, de générer un rendement, de réfléchir à comment t'sais, faire grandir une entreprise, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je pense que si j'étais pas dans un rôle d'investisseur, je serais dans un rôle en entreprise, peut-être un rôle stratégique, ça peut être relié à de la finance, mais quelque chose qui me rapprocherait des opérations, c'est quelque chose que je trouverais vraiment intéressant à faire éventuellement.
Super. Ben écoute, pour notre dernière question, Simon, si tu avais un livre à nommer pour nos auditeurs, lequel ce serait?
Écoute, un livre, je pense que c'est difficile à mettre le point sur un seul livre parce qu'il y a, bon, ça dépend quel sujet. Mais en fait, le point que je ferais, ça serait de lire de façon variée. Parce que, ben, un, je pense qu'il y a tellement de choses intéressantes dans le monde autre que la finance. Fait que je vous encouragerais à ne pas lire que des livres sur le monde des affaires ou la finance. Puis honnêtement, je pense que avoir cette perspective-là, c'est juste sain et ça vient en fait, c'est juste complémentaire à, je pense, peu importe ce que tu fais dans la vie. Récemment, par exemple, j'ai pris le défi de lire les livres du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est quelque chose que c'est quand même volumineux, là, c'est deux bonnes briques, mais honnêtement, j'ai vraiment eu plaisir à les lire. C'est quelque chose qui juste. Tu te projettes dans un autre monde, c'est fascinant. Juste le côté interpersonnel, lire des livres, c'est comme apprendre des vies parallèles de d'autres personnes. Fait ça, je trouve ça super intéressant. Ça, je l'ai lu évidemment en français. J'ai lu récemment un autre livre, How to Kill a Mockingbird, un classique de la littérature anglaise. Harper Lee, c'est une situation dans le sud des États-Unis durant les années comme 1930 sur le racisme. Donc, j'essaie de lire certains classiques qui sont dans les langues maternelles des écrivains. Puis honnêtement, pour moi, je pense, tu sais, lire de manière variée, je pense que ça te rend quelqu'un juste plus
Cultivé.
cultivé. Puis essentiellement, je pense que c'est juste vraiment important de lire varié. Puis avant, quand j'étais en début de carrière, j'avais tendance à lire juste des affaires financières. Puis je me disais, ben, c'est pas toujours nécessaire. À un moment donné, prendre un pas de recul, regarder d'autres livres, d'autres types de façon de penser, je pense que c'est vraiment rafraîchissant.
Parfait. Ben, pour vrai, ça conclut l'épisode. Merci de ton temps.
Ça fait plaisir, les gars.
Thanks for listening to the show. If you like what you heard, feel free to drop a comment or follow us on Spotify, Apple Podcasts, YouTube, or our social medias. Have a good one and see you next time.
The sole purpose of this podcast is to educate and to inform our listeners. It is by no means a substitute for professional guidance by qualified experts. This podcast is provided on the understanding that it does not constitute financial or other professional advice or services. Instead, we encourage you to discuss your career options, as well as financial undertakings with other professionals who specialize in wealth, securities, and asset management, or any other field in financial services. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at a personal and individual risk. This podcast should not be considered professional advice. Guests who speak on this podcast express their own opinions, experiences, and conclusions. The views expressed on this platform are personal opinions and only, and should not be construed as financial advice for your given situation or from a given institution. While all attempts are made to present accurate information, it may not be appropriate for specific circumstances, and information may become outdated over time. No firm, nor any company providing financial support endorses or opposes any particular view or tools discussed in this podcast. This podcast is available for private, non-commercial use only. Advertising, which is incorporated into, placed in association with, or targeted towards the content of this podcast is forbidden. This podcast may not be edited, modified, or redistributed. The Corporate Chat Podcast has no liability for any personal activities in connection with this podcast or for personal use of this podcast in connection with personal websites, computers, or playing devices. Moreover, the Corporate Chat Podcast makes no warranty that this podcast, or the server that makes it available, is free of viruses, worms, or other elements or codes that manifest contaminating or destructive properties. McGill University and our sponsors expressly disclaims any and all liability or responsibility for any direct, indirect, incidental, special, consequential, or other damages arising out of any individual's use of, reference to, reliance on, or inability to use this podcast or the information presented in this podcast.